Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Amélie Perrault, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Leridon, Bertie Bourdon, Rosalie Sucre, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Nicolas Delmas. Troisième temps de notre série consacrée aux influences étrangères en Afrique. Après nous être intéressés lundi à la disparition du franc CFA et aux vestiges de l'héritage colonial, puis au retour de la Russie sur le continent africain hier, tentons aujourd'hui d'éclairer les intentions chinoises sur le continent, car en une vingtaine d'années, la Chine est devenue le principal créancier et le premier partenaire commercial de l'Afrique, même si aujourd'hui, cette présence n'est pas sans poser problème. Chine-Afrique, l'hégémonie contestée, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
La Chine mérite d'être considérée aujourd'hui comme un véritable ami de l'Afrique. La Chine n'a pas de lien historique ou coloniaux avec l'Afrique. La Chine a dû elle-même se battre pour sa dignité, alors la Chine comprend pourquoi l'Afrique doit être respectée.
La Chine et l'Afrique forment une communauté de destin commun, partageant bonheur et malheur. Il s'agit également d'une communauté aux intérêts communs dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant. La coopération entre la Chine et l'Afrique a un impact majeur sur le développement économique mondial et sur la réforme de la gouvernance mondiale.
La communauté des destins, ça ne peut pas être seulement un slogan. C'est d'abord l'action. Alors que nous, ce qui est à la base dans la relation entre l'Afrique et la Chine, c'est la concertation et le souci d'avoir une coopération, comme on dit, gagnant-gagnant.
Dans l'ordre, nous entendions le président malien, le président chinois et le président togolais. Chine et Afrique vers une communauté de destin encore plus solide via la coopération gagnant-gagnant. Voilà le thème, il y a plus d'un an, du forum de coopération Chine-Afrique organisé à Pékin. Tous les États africains étaient présents, excepté le royaume d'Eswatini, l'ancien Swaziland. 53 chefs d'État donc, venus entendre le discours généreux du chef de l'État chinois Xi Jinping. Prêts sans intérêt, aides gratuites, financement des importations venues d'Afrique et entreprises encouragées à investir sur le continent. Dans les discours officiels, le partenariat sino-africain, il est gagnant-gagnant évidemment. Pourtant sur le terrain, les choses apparaissent plus compliquées et les résistances et autres mécontentements se font entendre. Main mise sur les matières premières, risque de surendettement, infrastructures non fonctionnelles ou inutiles, mauvaises conditions de travail dans les entreprises chinoises, mais aussi opacité de certains réseaux. Les critiques sont nombreuses à l'endroit de cette présence chinoise. Alors quelle est l'ampleur de cette remise en cause de la collaboration avec l'acteur chinois? D'où viennent les critiques et jusqu'où cela pourrait remettre en cause les équilibres actuels? Et d'ailleurs, que recherche l'État chinois en Afrique? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Thierry Perrault. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et à l'EHESS. Vous avez participé à un ouvrage sur autour de ce sujet, une mondialisation contrariée, l'Europe et la Chine face à de nouveaux enjeux, qui était paru chez l'Harmattan. À nos côtés également, Emmanuel Véron, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes vous enseignant-chercheur associé à l'École navale et délégué général du fonds de dotation Bruce de l'Aquila. Je vais commencer avec vous justement. En ce moment même, Emmanuel Véron, on a un ministre des Affaires étrangères chinois qui s'appelle Wang Yi, qui est en pleine tournée africaine, comme le veut la tradition depuis trois décennies maintenant. En effet, 1991, le premier déplacement de l'année du chef de la diplomatie, c'est vers le continent africain. Et depuis, c'est toujours le cas. Tous les ans, c'est la même chose. Le maintien d'une telle tradition, c'est d'ailleurs peut-être inédit dans l'histoire de la diplomatie contemporaine, en tout cas. Il n'y a peut-être pas d'autres cas. Cette tradition, est-ce qu'elle est le signe, Emmanuel Véron, qu'aujourd'hui, les relations de la Chine et de l'Afrique n'ont jamais été aussi poussées, ou est-ce que ça masque peut-être une situation peut-être un peu plus complexe, un peu plus nuancée?
Oui, je crois qu'on peut répondre en deux temps à cette interrogation qui est majeure. C'est, premier élément, effectivement, les relations entre la quasi-totalité des pays du continent africain et la Chine n'ont jamais été aussi poussées, développées et diversifiées. Au point de vue diplomatique, culturel, sécuritaire, militaire, on en reparlera, et bien évidemment commercial, économique, infrastructurel. Le deuxième point maintenant, effectivement, est de voir ce qui se passe en interne du paysage politique chinois, en interne du paysage économique chinois, c'est-à-dire en Chine, Chine populaire, et quels sont les éventuels possibilité pour le régime de faire accélérer tel ou tel dossier dans des prêts, dans des infrastructures, dans des questions de ressources, avec tel ou tel pays d'Afrique, pour subvenir au maintien relativement, comment dirais-je, de décélération de la croissance économique chinoise, des difficultés internes économiques, etc.
On y reviendra évidemment. Thierry Perrault, cette tradition que j'évoquais, elle nous rappelle peut-être aussi l'histoire, et là il faut remonter 50 ans en arrière, cette histoire qui lie les pays africains à la République populaire de Chine, lorsqu'en 1971, la République populaire de Chine, Pékin, récupère son siège à l'ONU, entre autres avec le soutien de pays africains. Pas tous, mais pas mal.
Mmh. Oui, là, vous me prenez, excusez-moi, un peu à contre-pied, puisque c'est pas les aspects politiques ne sont pas les aspects que prioritairement j'analyse. Mais effectivement, il y a toute une histoire qui a été créée à propos de cet événement, à savoir que vous avez eu à l'ONU toute une série de décisions qui ont été votées, et en fait, ces décisions, c'était des propositions lancées par les États-Unis pour bloquer l'accès de la Chine au Conseil de sécurité, enfin le retour de la Chine populaire à l'ONU. Mais l'avant-dernière résolution qui a été votée, c'était une résolution qui concernait la majorité qu'il était nécessaire d'adopter pour accepter l'arrêt de la Chine. Et cette résolution a été repoussée à une majorité très faible, mais ce qui était pour nous très important de constater, c'est le fait que tous les pays africains qui reconnaissaient la Chine n'ont pas voté contre.
Qui reconnaissaient la République populaire de Chine.
Qui soutenaient la République populaire de Chine, ouais. N'ont pas voté contre cette résolution. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de pays qui ont fait défaut. En revanche, une fois que les choses ont été acquises, que c'était la majorité simple, à ce moment-là, il y a eu un vote massif de pays africains, ceux qui n'avaient pas voté, plus ceux qui raccrochaient les wagons. Donc, si vous voulez, on peut effectivement dire qu'il y a eu un certain nombre de pays qui ont voté pour la Chine populaire, l'entrée de la Chine populaire, mais en fait, ce n'est pas la belle unanimité qui a été proclamée, et c'est en fait une vérité, entre guillemets, qui a été énoncée qu'en 1999, ouais, par quelqu'un qui était chargé d'écrire l'histoire diplomatique de la Chine et qui dedans a attribué une phrase apocryphe à Mao Tse-tung, selon laquelle il aurait dit que c'est grâce à nos amis africains noirs, puisque c'est tout l'ensemble de la phrase, hein, que nous sommes rentrés à l'ONU.
C'est donc aussi en fait, la construction d'un mythe d'une certaine manière. D'une certaine manière, même si c'était quand même 26 États qui ont voté pour, 26 États africains et 14 qui ont voté contre. Donc quand même une majorité. Et on parle de mythe, Emmanuel Véron, et je vous laisse réagir, mais il y a peut-être une autre histoire qu'on peut rappeler aussi, c'est 1955, la conférence de Bandung, où là aussi on affiche cette solidarité entre les pays d'Asie et les pays d'Afrique, et d'ailleurs c'est une image que Xi Jinping convoque régulièrement, l'esprit de Bandung, même s'il a peut-être un peu changé depuis, mais il est régulièrement convoqué par le président chinois, vous confirmez?
Absolument, je souscris totalement dans la continuité des dires de Thierry Perrault. Cette affaire de Bandung 1955, donc précède de 1970, 71, 72, les tractations diplomatiques de la République populaire de Chine pour avoir son siège et son retour, si vous voulez, en tout cas en tant que puissance à l'ONU, comme voix qui compte. Donc 1955, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est moins de 6 ans ou à peine 6 ans après l'édification de la République populaire de Chine. Donc ça veut dire que la Chine, qui est très présente, qui a un poids important à Bandung, non pas par la voix de Mao, mais il envoie ses émissaires, etc., va là jouer un rôle important pour s'établir comme étant le grand frère qu'elle, aujourd'hui, en 2020, dit le grand pays en développement, ce qu'elle dit depuis 15, 20, 30 ans, comme étant l'interlocuteur privilégié des États en développement, et en particulier du continent africain. Donc c'est à partir de cela qu'on va pouvoir spéculer sur la construction de ce mythe qui est convoqué structurellement, régulièrement, par le grand patron de la Chine populaire actuelle, Xi Jinping.
Alors on va parler évidemment de la question des échanges commerciaux, de la dette, la question sécuritaire, mais il y a un autre point peut-être sur lequel je voudrais vous entendre, Thierry Perrault, et ensuite je vous laisse poursuivre librement, mais on parle là, et ça fait plusieurs fois qu'on utilise l'expression les uns les autres, de Chine-Afrique. La Chine, on le sait, la conception qu'elle a de la diplomatie, c'est une conception qui est éminemment bilatérale. libéral. On rejette le multilatéralisme. Est-ce qu'on peut penser que du côté de Pékin, il y a effectivement une certaine idée d'une diplomatie africaine? Est-ce qu'il existe seulement une politique africaine ou est-ce qu'en réalité, quand même, les choses sont pensées? Sans compter que, par ailleurs, le continent africain, c'est pareil. Hein, c'est 54 pays très différents. Est-ce que réellement, il y a une politique africaine chinoise ou est-ce qu'il y a 54 pays et donc 54 politiques africaines du côté de Pékin?
Alors, disons que là, l'analyse, elle exige que l'on sorte de la personnalisation qui fait que l'on parle de la Chine ou les Chinois d'une manière indistincte, quel que soit l'aspect politique ou économique ou commercial qui est évoqué. Bon. Alors, il est vrai que d'un point de vue politique, il y a un souci majeur de la part du gouvernement chinois, c'est de se créer, je veux dire, une clientèle qui puisse la soutenir dans les instances internationales. Hein, donc, 54 pays, pour l'instant que 53, à l'Assemblée générale de la Nations Unies, ça fait pratiquement un tiers déjà des voix. Bien. Et vous avez indirectement par ce biais, effectivement, la Chine, en tant que pays, donc stratégie gouvernementale ou nationale, hein, ça permet à la Chine d'accéder à la direction d'un grand nombre d'agences de Nations Unies, comme la FAO récemment, ou bien comme l'Agence de l'aviation civile, et ainsi de suite.
Et ça permet aussi, petite parenthèse, de livrer une autre bataille peut-être plus intérieure, mais qui est aussi liée à la diplomatie, qui est celle qu'elle livre avec Taïwan. Aujourd'hui, la quasi-totalité, même je crois la totalité, sauf l'ancien
Swaziland.
Swaziland, merci, a rompu ses relations avec Taïwan.
Disons que par rapport à la stratégie, c'est presque une affaire intérieure, l'histoire de Taïwan, rapport à ce que nous sommes en train d'évoquer.
Mais ça passe quand même par la diplomatie.
C'est devenu anecdotique. Non, mais enfin, c'est devenu anecdotique comme aspect.
Ça s'est plié, là.
Alors, de l'autre côté, vous avez, si on continue à refuser de personnaliser tout sous le vocable Chine, vous avez un ensemble d'acteurs que l'on peut qualifier de chinois, mais dont les stratégies sont totalement différentes, surtout si on se place d'un point de vue strictement commercial ou d'un point de vue économique. On peut détailler, vous avez effectivement les grandes entreprises publiques qui souvent sont sous la tutelle directe du gouvernement chinois, mais en fait ce sont leurs filiales plus généralement qui vont sur le terrain africain. Quelle que soit leur proximité avec le pouvoir, elles ont une autonomie. Alors, elles travaillent pas en contradiction avec une stratégie générale qui ne concerne pas que l'Afrique définie à Pékin, mais elles ont une grande liberté d'action pour la mise en œuvre. Bien. Ce qui fait que vous pouvez avoir des actions qui pourront être considérées comme tout à fait représentatives, d'autres beaucoup moins, certaines qui seront plus critiquables du point de vue africain. Après ça, vous avez aussi d'autres entreprises publiques qui sont des entreprises locales. Et ces entreprises, elles sont représentatives des intérêts locaux et des stratégies locales. Et très souvent, ces stratégies locales, elles n'ont rien à voir avec les questions de développement. Elles ont simplement à voir avec les questions de gros sous, rapporter le plus possible à la province. Vous avez toute une série d'entreprises privées ou à caractère semi-privé, qui elles aussi ont leur stratégie. Et ces stratégies, elles ne vont pas forcément, encore une fois, dans le sens. Et puis vous avez la grande masse des petits entrepreneurs, on n'ose même pas employer le mot entrepreneur, qui constituent ce qui est la partie la plus visible, et donc la plus directement critiquable, les vendeurs de beignets. Et ainsi de suite. Bon. Donc, si vous voulez, si on rassemble tout ça comme étant la Chine, on a une image qui est complètement sans rapport avec la réalité ou la pluralité de la réalité.
Vous avez absolument raison de complexifier, de localiser finalement les enjeux. Je vais faire tout à fait l'inverse. Je vais la réduire dans une seule figure, celle de Xi Jinping, Emmanuel Véron. Est-ce que l'arrivée de Xi Jinping en 2013 va constituer une rupture dans la manière dont on conçoit ces relations avec l'Afrique? On sait que l'objet par lequel on pense ces relations avec l'extérieur du côté de Xi Jinping, c'est les fameuses nouvelles routes de la soie. Quelle place tient l'Afrique dans cette perspective-là?
Alors, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping entre 2012 et 2013 n'est pas tant une rupture dans le système de politique extérieure de la République populaire à l'égard de l'Afrique, que de l'intensification et une montée en puissance des relations et de la présence chinoise tous azimuts, comme l'a décrit Thierry Perrault, de l'entrepreneur low cost, si j'ose dire, à une échelle très, très fine, à des grandes entreprises d'État, impulsées par le ministère des Affaires étrangères, qui, pour répondre à la question que vous avez évoquée tout à l'heure, oui, répondent bien à une politique africaine. sur lequel on va avoir autant de boutons que de pays. J'appuie sur le bouton Burundi, hop, on voit ce qui se passe. Donc oui, il y a bien une intensification, une montée en puissance depuis Xi Jinping, mais qui est en continuité avec la précédente gouvernance de Hu Jintao. Simplement, ce que l'on peut dire, et je viens au point des routes de la soie...
Et qui est efficace, je veux dire, par exemple, si on regarde la question des échanges commerciaux, jusqu'où est-ce que l'arrivée de Xi Jinping et cette volonté d'accélérer un peu les échanges a permis, en effet, d'accélérer les volumes d'échanges?
Alors, je crois, et c'est Thierry Perrault qui est l'expert de ce sujet économique, c'est ce que je peux dire en deux mots, simplement, c'est que l'Afrique n'est pas véritablement le grand client de la Chine. C'est d'abord et avant tout en Asie, d'abord et avant tout les marchés européens développés, avec du pouvoir d'achat, de la R&D, nord-américain, etc. Mais dans ce dispositif-là de commerce international, l'Afrique tient une place importante dans les ressources, et qui est primordiale pour l'Afrique. Ressources minières, prenez par exemple l'exemple du Congo-Kinshasa, RDC. 95% du cobalt pour les batteries et d'autres applications, d'autres utilisations de process industriels, est détenu entre des intérêts chinois. Mmh. 95% du. Donc là, on est dans une situation de monopole.
Thierry Perrault, sur la question commerciale, et puis ensuite on abordera celle qui fâche, est celle de la dette. Mais...
Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que représente l'Afrique. L'Afrique, c'est 3% du commerce mondial. C'est 3% de l'investissement direct étranger. Et que l'on regarde les statistiques globales de la planète, ou simplement les statistiques chinoises. C'est-à-dire que l'Afrique a une petite place, une place microscopique, d'un point de vue macroéconomique, dans les relations de la planète avec l'Afrique, ou dans les relations de la Chine avec l'Afrique.
C'est 3% de son commerce extérieur, à peu près?
Oui, c'est ça, 3% du commerce extérieur, 3% des investissements. Et on pourrait multiplier. Là-dessus, on rajoute l'illusion des nouvelles routes de la soie. Les nouvelles routes de la soie n'ont jamais été inventées par Xi Jinping. Il faut bien se rendre compte que la route maritime de la soie, elle existe depuis au moins un siècle et demi. Bon. Alors c'était d'abord la route des céramiques, un marchand arabe, marchand persan qui allait à Canton et qui ramenait des porcelaines, creusement du canal de Suez, et route vers l'Europe. Quel est le premier acteur de ce circuit? C'est la CMA-CGM, qui va créer en 1869 le port de Djibouti. Et dans la Syrie, dans la suite du port de Djibouti, la ligne Addis Abeba-Djibouti. Donc si vous voulez, et aujourd'hui, sur cette ligne, vous avez 78% du trafic de conteneurs qui tangente l'Afrique sans s'intéresser à l'Afrique. Ce n'est pas les transbordements qui ont lieu aujourd'hui à Port Saïd ou au port Alexandria, voire à Tanger, qui impactent l'Afrique. Non, c'est un transbordement qui se fait à destination du nord de la Méditerranée, à destination de l'Amérique, à destination de l'Europe et de l'Europe du Nord. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, dans tous ces circuits qui sont récupérés, dirons-nous, par la stratégie chinoise, c'est en fait, j'aurais dû dire récupérés par les pays africains. C'est quelque chose qui ne leur était pas destiné. C'était un slogan à destination des entreprises chinoises, pour qu'elles exportent davantage à destination des grands marchés, qui sont effectivement les marchés européens.
Thierry Perrault, la question de la dette. La Chine, c'est de loin le premier créancier du continent africain et de plus en plus, on s'inquiète de cet état de fait. On parle de piège de la dette. Le FMI, très régulièrement, met en garde contre cette menace. Quelle est l'ampleur du problème et est-ce que cette dette à l'égard de Pékin est, à long terme en tout cas, pas tenable, intenable?
Alors là, encore une fois, c'est une approche qui est biaisée dès le départ. Pourquoi ? Parce que le fait de s'endetter n'est pas un fait critiquable en soi.
Il suffit de regarder notre cas à nous.
On n'est plus endetté
qu'un certain nombre de pays africains dont on dit que c'est une menace.
Le problème, c'est de savoir dans quelle mesure le prêteur comme l'emprunteur sont capables de gérer cet endettement et ont évalué la dangerosité potentielle de cet endettement. C'est-à-dire, est-ce que la Chine connaît ce qui se passe effectivement en Afrique? Et est-ce que les pays africains ont effectivement une stratégie qui leur permette de supporter leur endettement? Le meilleur exemple en la matière...
La réponse est...
Non, ni pour l'un ni pour l'autre. Et donc, ce qui est grave, ce n'est pas...
Donc, c'est préoccupant.
C'est très préoccupant, mais pas de la façon dont on parle. C'est-à-dire, ce n'est pas préoccupant pour les pays africains, c'est préoccupant pour tous les pays qui sont concernés. Mmh. Et donc ça exige, et c'est quelque chose qui est en train de se mettre progressivement en place, une réévaluation des politiques de près par la Chine, mais également une réévaluation des projets qu'ils peuvent lancer.
Emmanuel Véron, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre pourquoi aujourd'hui le continent africain, pardonnez-moi, on va essayer de globaliser aussi un peu les choses, on en a parfois besoin, est à ce point endetté envers la Chine ?
C'est le travail diplomatique, ni plus ni moins, des instances chinoises depuis, je dirais, 20 à 30 ans. D'avoir tissé des liens forts, de grande proximité avec les chefs d'État africains, s'ils sont encore en place depuis 20 ans ou 30 ans, ou successifs. Je prendrais l'exemple de Djibouti, on pourrait le développer tout à l'heure, du Kenya, on pourrait parler de la Guinée-Conakry, bon, un certain nombre d'États comme ça. Qui aboutit aujourd'hui à, dans des logiques tout de même d'opacité, de corruption systématique. C'est un sujet important, quels que soient les acteurs présents chinois sur zone, qu'ils soient étatiques, ministériels, dans l'institutionnel pur, ou que ce soit de l'entreprise pure, ou de la para-entreprise, c'est la question de la pratique de la corruption. Dans ce cadre-là, on arrive à des niveaux d'endettement qui permettent, des pays africains vis-à-vis de la Chine, qui permettent à la Chine de les tenir, ces pays-là. Qui permettent de les rendre dépendants.
Justement, parce que vous avez parlé d'opacité, j'aimerais comprendre ce qu'il y a derrière ce terme. Parce que, effectivement, souvent dans les contrats de crédit qui sont proposés par Pékin, il y a ce qu'on appelle des clauses de sûreté, plus ou moins secrètes, plus ou moins officielles, officieuses. J'aimerais savoir, traditionnellement, sachant que c'est évidemment des choses assez secrètes, mais qu'est-ce qu'on sait de ça ?
Pas grand-chose, justement. C'est d'où le mot d'opacité. C'est quand on a
deux, trois idées quand même.
Un besoin de clarification. Les autorités chinoises ou l'acteur chinois concerné, botte en touche.
Non, mais sur le principe, on sait à peu près que quand un pays africain n'est plus en capacité de rembourser Pékin, alors il doit lui donner soit des c'est ce qui se dit beaucoup, c'est totalement faux. Alors vous allez nous expliquer pourquoi Thierry Perrault, mais c'est ce qu'il se dit en tout cas, qu'il y a des garanties sur des gisements de matières premières, sur des infrastructures. Vous dites non, mais par exemple, si je prends le cas du Sri Lanka, le Sri Lanka n'était plus en capacité de payer sa dette envers Pékin. Et qu'est-ce qu'elle a dû faire? Elle a dû confier la gestion de l'un de ses ports à Pékin, donc concession de 99 ans. Donc ça, c'est un fait.
Oui. Si on parle de Sri Lanka, c'est encore plus compliqué que ce que vous dites. Parce qu'en fait,
alors, aidez-nous à comprendre.
Le port auquel vous faites allusion, parce qu'il y a des concessions sur les deux ports, Colombo. Et à Colombo, sur une partie du port, c'est une concession de 126 ans. Négocié.
Dans le cas celle-là a été négociée, l'autre a été subie.
Alors, non. Parce que la Chine a racheté la dette du Sri Lanka. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ce que le Sri Lanka aurait dû rembourser à la Chine, c'est l'entreprise chinoise qui l'a remboursé à la Chine. Donc, si vous voulez, si vous regardez ça de ce point de vue-là, vous dites que les choses sont peut-être pas exactement.
Mais parce que le Sri Lanka n'avait plus les moyens de rembourser.
Mais le Sri Lanka.
Si le Sri Lanka avait pu faire autrement, autrement.
Non. Il est exact que le Sri Lanka n'avait plus les moyens de rembourser.
Voilà. Donc
mais que le problème. Non, mais le problème.
Il était pieds et mains liés, en réalité.
Ce qu'il faut voir, c'est que quelles sont les conditions dans lesquelles les choses se sont passées. Et effectivement, à partir du cas d'Ambantota, effectivement, il y a une généralisation dans la mode d'analyse qui voulait qu'il y ait toujours des gages qui étaient donnés. Il n'y avait pas le port d'Ambantota n'avait pas été donné en gage auparavant. Simplement,
c'était pas en clause. Vous avez raison, c'était pas en clause. Ça a été négocié après.
Il y a eu un rachat.
Après,
Et dirons-nous qu'à ce moment-là, Ambantota.
Mais le Sri Lanka n'avait pas véritablement le choix. Vous êtes d'accord?
Pardon.
Le Sri Lanka n'avait pas véritablement le choix.
Ah ben, le Sri Lanka, c'est le second volet, c'est que le Sri Lanka s'est mis dans cette situation-là. Et il avait demandé des financements, effectivement, on revient au problème de corruption, à travers ce port pour financer la campagne.
Alors, quittons le Sri Lanka, parce que le Sri Lanka, c'est pas l'Afrique. Est-ce qu'il y a des pays
par exemple, dans ce cas de situation. Ce qui se passe aujourd'hui à Kribi, au Cameroun, où il y a eu, dirons-nous, la volonté d'affirmer qu'il y avait une mainmise. En fait, vous avez un processus tout bête. Vous avez l'entreprise qui est la China Harbour, qui est la CHEC, qui réalise la construction. Pour pouvoir garantir son repaiement, elle a demandé à participer à côté de Bolloré et de CMA-CGM à la structure qui allait gérer le port. Et dans tout ce processus, le gouvernement du Cameroun s'est arrangé pour lui ne devoir rien, mais être simplement réceptionnaire des bénéfices qui pouvaient être... Mmh. Et là, donc, vous avez la Chine qui est garantie sa remboursement par la présence d'un actionnaire temporaire au conseil d'administration. Vous avez aussi une procédure d'entiercement qui fait appel à une banque ou autre qui n'est pas intéressée directement, qui va répartir les bénéfices, et dirons-nous que ce sont les actionnaires qui seront payés en dernier. La banque, le gouvernement, les actionnaires.
Emmanuel Véron.
Voilà, c'est une logique de la pratique systématique de la corruption, donc qui est un vrai problème, qui est difficilement traçable par les instances comme le FMI qui travaillent pour avoir de la régulation, pour essayer de clarifier les situations. On est dans une situation de je te tiens, je vous tiens par la dette plus que par l'épée, hein, comme disait Adam Smith. Tout simplement, c'est la situation qui se pose actuellement à Djibouti. Quand on regarde la situation de Djibouti, installation d'une base militaire chinoise qui au début pose problème, sur les sorties de câbles sous-marins par lesquels passent beaucoup de communications, hein, les câbles sous-marins c'est 97 à 98% des communications mondiales, le reste dans l'espace satellitaire, la base chinoise est pluguée là-dessus. C'est quand même pas anodin. Et on pourrait développer d'autres sujets sur ces affaires sécuritaires et militaires. À côté de cela, dans la situation djiboutienne, est prévu construit, zone franche, zone économique spéciale et un port de commerce. Et donc on est sur, dans la diplomatie chinoise économique, qui est l'exemple du Cameroun, qui serait l'exemple du Kenya, du Mozambique ou autre, de les affaires géoéconomiques qui précèdent des affaires sécuritaires et militaires. Mmh. Et le continent africain là-dedans, aujourd'hui, est pleinement dans cette situation-là.
Encore une ou deux questions sur ce point, mais essayons peut-être de faire pas trop long sur les réponses, de sorte à ce qu'on puisse avancer. Il y a plusieurs questions. C'est d'abord, est-ce que les pays africains peuvent se passer de la Chine, ou est-ce qu'elle a nécessairement besoin de cet argent? Ce qui pose une seconde question, c'est est-ce qu'il y a d'autres candidats qui sont prêts à faire un pas et à prêter de l'argent aux pays africains? Thierry Perrault.
Dirons-nous qu'à ces niveaux-là, non. Au niveau auquel la Chine peut effectivement prêter, non. Mais le problème, à la limite, ce n'est pas ce problème-là. Le problème, c'est le problème des stratégies de développement et la maîtrise que les pays africains peuvent avoir dans la définition de leur stratégie de développement. Et à ce moment-là, ils pourront imposer leur choix à un prêteur, et ce prêteur étant la Chine. Bon. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et alors, puisqu'on parlait de Djibouti, je reprendrai encore l'exemple Addis Abeba, Djibouti, où vous avez eu à la fois, je veux dire, une complicité du gouvernement éthiopien et du gouvernement chinois pour un choix de projet, qui était le projet le plus cher, et le prêt qui a été octroyé, c'est un prêt de 10 ans avec un délai de grâce de 3 ans. Or, on sait qu'une ligne de chemin de fer n'est rentable qu'au bout de 50 ans. Bon, donc ça ne pouvait pas être remboursé, c'était évident.
Quand elle est rentable.
Quand elle est rentable. Mais aujourd'hui, en plus de ça, c'est que cette stratégie, elle doit dépasser cette simple ligne. Hein. Aujourd'hui, l'Éthiopie a négocié une ligne de chemin de fer avec Port-Soudan, financée par la Banque africaine de développement, et la construction d'une route vers Berbera, qui est un autre port, avec un fonds arabe. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de créer des concurrences à une ligne qui n'est pas rentable. Bon. Donc c'est donc qu'il y a un problème de stratégie dans les pays.
Ce train d'Addis Abeba, d'ailleurs, c'est un bon exemple, parce que c'est aussi l'un des projets qui a provoqué beaucoup de colère du côté des Africains, notamment parce qu'il a fallu évidemment expulser un certain nombre de personnes. Alors c'est vrai, on a indemnisé les personnes en question, mais à des niveaux quand même très bas, et ça a provoqué énormément de colère. Je voudrais justement qu'on évoque cette question de la colère et du coup de ce sentiment anti-chinois qui est en train de naître du côté de l'Afrique.
Ton travail là, c'est petit, argent petit, mais travaille beaucoup. Pas de ration.
Ah, regarde, tu vois ça? Pas de casse, pas de botte, regarde. Il travaille avec les babouches.
Okay. Voilà, bon, donne-moi l'argent, moi c'est manger maintenant là.
Yeah, manger, yo.
Non, donne-moi l'argent, moi c'est manger.
Combien de mètres?
Hein?
Today, yo, 10
mètres! 10 mètres? 300!
10 mètres,
300, oui, le maire.
300!
Si le bœuf pas nous paye bien, on va d'abord lui donner le coup de poing. Ils vont rentrer chez eux. Faut bien payer.
Petit!
Bon, allez, on y va.
Ça, c'est compris.
Travaille plus. 5 mètres. 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 5 mètres.
Je suis calme parce que je vois ça tous les jours. Je suis habitué. À chaque fois, ils se plaignent, mais si c'était aussi dur, ils ne reviendraient pas travailler.
Cet homme qu'on entendait à l'instant, c'est M. Peng qui construit des routes. Il est prêt à beaucoup de sacrifices pour gagner deux fois son salaire chinois. Cependant, il doit faire face à des critiques régulières de la part de ses ouvriers camerounais qui réclament un meilleur salaire ainsi que de meilleures conditions de travail, extrait du documentaire français contre chinois, main basse sur l'Afrique, réalisé par Stéphane Bentoura. Je voudrais peut-être entendre une réaction l'un et l'autre sur ce que vous venez d'entendre, et plus généralement sur ce sentiment anti-chinois qui est peut-être en train de monter aujourd'hui du côté de l'Afrique, alors quelle est justement l'ampleur du phénomène, et qu'est-ce qu'il pourrait produire? Il y a par exemple l'année dernière un fait qui avait beaucoup marqué, le Kenya avait ordonné l'expulsion de 200 citoyens chinois qui menaient des activités illégales. Est-ce que ce genre d'initiative pourrait se reproduire? Est-ce qu'effectivement, le continent africain, quand on le regarde dans son ensemble, après on regardera en détail, mais pourrait se mettre finalement à repousser cet acteur chinois qui l'accueille à bras ouverts depuis des années? Thierry Perrault et puis Emmanuel Véron?
Écoutez, on revient précisément à ce que je disais dès le départ. Parce qu'on a, là, vous avez un personnage, de même que ceux qui ont été rejetés, c'est une série d'individus, ce ne sont pas les entreprises chinoises en tant que telles qui sont rejetées. Bon. Donc, il devient impératif de ne pas identifier le comportement d'une présence globale qui pose énormément de problèmes, à simplement à des cas d'espèces, d'acteurs.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, et d'autres.
Mais si on regarde par exemple, si on regarde au global, par exemple, le nombre de Chinois en Afrique aujourd'hui, il est en train de baisser.
Alors, le nombre de travailleurs sous contrat est en train de baisser légèrement pour une raison toute bête, c'est que le renouvellement des contrats ne s'est pas fait à la même vitesse qu'antérieurement. Hein, il y a eu, dirons-nous, un pic il y a deux ans des travailleurs sous contrat. Hein. Alors, par contre, les populations, dirons-nous, chinoises émigrées sur place, le décompte, il est impossible. Déjà qu'on n'arrive pas à avoir le décompte de la population africaine. Donc, ceux qui seraient dans des situations illégales, c'est encore pire. Donc, si vous voulez, on est aussi dans le domaine dans le fantasme.
Donc, attention, ouais.
Et dirons-nous qu'à partir d'un petit fait, on globalise, alors que le problème est peut-être ailleurs. Et on ne le voit pas.
Emmanuel Véron.
Ce que l'on observe par rapport à ces sujets de ressentiment anti-chinois, ou en tout cas de mise en garde, ouais, c'est une question de ressentiment. On n'avait pas un ressentiment aussi généralisé, aussi massif, si j'ose dire, au niveau des sociétés, au niveau le plus bas de la société. Donc l'exemple que vous avez diffusé, où on pourrait parler des pêcheurs sénégalais en Gambie ou en Guinée-Bissau, traditionnels dans les petites pêcheries qui sont dépossédés des biens halieutiques, parce qu'on a des pêcheries en partie chinoises au large de ces côtes-là, y compris en Mauritanie. On pourrait parler de la même chose sur la côte est du continent africain ou dans d'autres secteurs, agricoles, élevage, etc. Ce qu'on observe parallèlement à ça, c'est la réaction chinoise, ou un début de réaction chinoise, c'est-à-dire ils se sentent comme étant très exposés, ou de plus en plus exposés. Il y a la question de Djibouti, une base militaire maintenant, bon d'accord. Il y a la question de toutes ces entreprises, de tous ces diplomates, de tous ces commerçants, de toute cette nouvelle diaspora chinoise en Afrique, bon, difficile à compter, qui est de plus en plus exposée. Et les Chinois n'ont pas l'habitude d'être aussi exposés, aussi loin, dans un contexte qui est quand même assez compliqué. On est loin de l'Asie, on est loin de chez nous, la terre, la mère patrie, etc. Et donc, parallèlement à ça, les éléments qu'on a de réponse chinoise, c'est une présence sécuritaire et militaire beaucoup plus affirmée. Vous voyez, par exemple, dans la région de Djibouti, des déplacements officiels de Chinois sur des véhicules, même les Américains font pas ça, blindés, armés, etc., etc.
Justement, sur cette question sécuritaire, on n'a pas l'habitude, disiez-vous, peut-être qu'il va falloir la prendre, et peut-être d'ailleurs que l'on prépare d'une certaine manière aussi les citoyens chinois à cette idée-là. Exemple, l'extrait d'un film, alors, le cinéma c'est le cinéma, mais il joue aussi sur la réalité. Je vous laisse écouter un tout petit peu cette bande-annonce, et puis ensuite je vous explique.
J'ai 18 AK 30 mm 7.62
Wolf Warrior. Voilà, la bande-annonce de Wolf Warrior 2, je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, le pitch très rapidement, c'est l'histoire d'un ancien membre des forces spéciales chinoises qui part sauver des compatriotes et des amis africains en zone de guerre, quelque part en Afrique, on sait pas bien où. Mais justement, cette question de la sécurité, est-ce que aujourd'hui, il y a une nouvelle idée de la place de la Chine sur le continent africain sur le plan de la sécurité, sur le plan militaire? Est-ce qu'il y a une nouvelle diplomatie militaire africaine, par exemple, enclenchée par Xi Jinping?
Absolument. Alors, enclenché par Xi Jinping, non, mais c'est, comme on l'évoquait tout à l'heure, monté en puissance par Xi Jinping du fait de, d'une meilleure assise diplomatique et d'un meilleur contact avec différents États africains. C'est concret. Premier élément, c'est la présence militaire chinoise à Djibouti. Alors, le nombre et de militaires qu'on a sur place, c'est compliqué, c'est opaque.
Et tout le monde y est à Djibouti.
Tout le monde y est.
Les Américains, même les Japonais.
Ouais, même les Japonais.
Peut-être demain les Indiens.
Les Émirats. Deuxième élément, c'est les éléments chinois sous pavillon OMP, Organisation de maintien de la paix. Troisième élément, des forces militaires ou de sécurité et ou de sécurité propres aux composantes paramilitaires ou parapolicières chinoises présentes en Centrafrique, présentes au Kenya, présentes au Burundi, etc., etc., qui font de la sécurité. Mais on pourrait également évoquer un autre point, celui de la formation des officiers, ou sinon sous-officiers, mais en tout cas officiers d'un certain nombre d'armées africaines envoyées dans des écoles en Chine. Armée de terre à Kunshan, par exemple, à côté de Shanghai. Formation des officiers, où vous retrouvez à peu près tous les pays de la planète qui passent un séjour de formation là-dedans. Alors qu'est-ce qu'ils apprennent là-bas? Pas grand-chose. Ça, c'est un autre problème, c'est-à-dire c'est la capacité limitée de la Chine à vraiment donner un message de formation. Donc, mais en tout cas, ça fait du buzz.
Ce que fait bien la Chine, c'est vendre des armes, par contre, à l'Afrique.
Oui, depuis longtemps.
Ouais, ben c'est devenu le premier vendeur d'armes
sur le continent.
Sur le continent.
Oui. La problématique.
Ça c'est récent, c'est dans la dernière décennie. On est d'accord.
Dramatique de Turquoise et du Rwanda, les Chinois étaient pas loin. Hein.
Mais on est d'accord, c'est relativement nouveau, c'est la dernière décennie.
Oui.
Quand on fait ça, Thierry Perrault, on s'expose. Parce que jusqu'ici, on disait la formidable force de la Chine, c'est que finalement, elle ne fait pas d'ingérence, qu'elle ne fait pas de politique, elle fait que du business. Quand vous commencez à faire du militaire, quand vous commencez à faire du sécuritaire, vous faites de fait de la politique. Est-ce que militariser sa présence, ça constitue pas aussi un risque de fragilisation de sa position sur le continent africain, Thierry Perrault?
Alors, je vais reprendre le dernier élément, à savoir qu'il y a effectivement des structures privées chinoises qui participent au maintien de l'ordre indirectement, mais de la même façon que les entreprises occidentales le font. Donc, si vous voulez, ce que je dirais, et c'est un des éléments que j'évoque le plus souvent, c'est que la Chine en Afrique, elle apprend l'altérité. Et elle apprend à réagir, à travailler comme font les autres. Pour se protéger, les entreprises étrangères ont besoin d'engager des milices. Ils ont aussi leurs propres milices. Alors, pour en revenir effectivement aux stages qui sont faits, ces stages, ceux qui y vont n'y apprennent pas grand-chose, mais inversement, les Chinois apprennent précisément l'altérité. Car ils sont en contact avec des gens qui vont réagir différemment par rapport à un problème, et c'est une façon pour la Chine comme une autre de commencer à comprendre ce qui se passe effectivement en Afrique. Donc si vous voulez, en se posant de ce point de vue-là, vous avez aujourd'hui un transfert, je dirais au sens le plus large, de technologie qui se fait de l'Afrique vers la Chine, que ce soit à travers la connaissance même des pays africains.
De technologie humaine.
Mais aussi de technologie de gestion et de technique, dans la mesure où ces entreprises africaines sont en contact avec les entreprises occidentales.
Emmanuel Véron.
J'ajouterais sur ce sujet militaire, deux choses. En continuité avec ce que vient d'évoquer Thierry Perrault, sur la formation, il est effectivement vrai qu'au contact de militaires, le plus souvent occidentaux, qui sont les plus opérants, si j'ose dire, avec un savoir-faire de haut niveau, par exemple, les Barkhane, opération militaire française dans le Sahel, sahélo-saharien, la zone sahélo-saharienne. On a des éléments chinois en OMP. C'est intéressant pour eux d'observer ce qui se passe pour réappliquer potentiellement ces logiques de politique antiterroriste au Xinjiang. Bon, premier point. Deuxième point, le fait d'avoir une proximité diplomatique avec tel ou tel État, de développer une certaine aura sécuritaire et militaire. C'est bon pour le soutien à l'export de l'industrie navale chinoise, de l'industrie militaire chinoise. Donc c'est de la vente de pistolets automatiques, de petits calibres, semi-automatiques, etc., jusqu'à la vente de bateaux de guerre. Si on regarde l'Algérie, les récents bateaux acquis par l'Algérie sont chinois. Des sous-marins, etc., à venir. Enfin, tout un tas de matériel de guerre.
C'est évidemment bon pour vendre les armes. Mais est-ce que Pékin a pour objectif de devenir le gendarme de l'Afrique ?
Certainement pas. Ils en sont incapables, et certainement pas.
Est-ce qu'ils pourraient, par exemple, venir aider les Français au Sahel ?
Non.
Inenvisageable.
Non, non.
Bon, bah, c'est parfaitement clair. Voilà, les questions claires. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut avancer. Je vous propose de nous intéresser désormais à l'Inde, parce que si la Chine travaille évidemment à asseoir son hégémonie en Afrique, elle n'est pas la dernière sur le continent. Et on a l'Inde, l'autre grande puissance asiatique, qui tente depuis des années de renforcer ses liens avec la région. Alors, quelle est l'ampleur de cette présence indienne en Afrique ? Comment les Indiens sont-ils reçus d'ailleurs sur place ? Est-ce qu'elle peut rivaliser avec cette hégémonie chinoise ? On va retrouver Thierry Vircoulon par téléphone, qui est en Afrique du Sud, qui est chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'EFRI. Thierry Vircoulon, vous travaillez actuellement sur l'influence indienne sur le continent africain. Alors cette présence indienne sur le continent, elle est évidemment très ancienne, depuis plusieurs siècles, bien avant l'arrivée d'ailleurs des Britanniques dans le sous-continent indien. Aujourd'hui, ces communautés originaires d'Inde ou même du Pakistan sont extrêmement nombreuses, et notamment sur les pays de la côte Est, au Kenya, en Tanzanie, Ouganda, mais aussi évidemment en Afrique du Sud, là où vous êtes en ce moment et où il existe une diaspora très importante. Est-ce que, Thierry Vircoulon, là de cette présence ancestrale, il y a une nouvelle ambition des autorités indiennes concernant l'Afrique, et est-ce qu'il y a un plan, un programme destiné à y accroître son influence?
Il y a en effet une stratégie indienne en direction du continent africain. Comme de nombreux pays maintenant, les autorités indiennes organisent régulièrement un sommet Afrique-Inde où ils invitent les gouvernements africains en Inde et où très classiquement, comme la France, la Chine et d'autres pays, ils font des annonces d'aide au développement pour l'Afrique, et donc ce sommet a lieu régulièrement. Mais ce qui est plus marquant, je pense, depuis le début du XXIe siècle, c'est pas tant l'offensive diplomatique indienne vers le continent africain qu'une présence économique qui est portée par le secteur privé indien. Et on voit se développer beaucoup de business indiens maintenant en Afrique qui sont complètement privés et qui ne sont pas portés ou financés par le gouvernement indien, comme par exemple on peut le voir quand on regarde l'action de la Chine en Afrique, où derrière beaucoup de sociétés chinoises, il y a en fait le gouvernement chinois. Là, on a une dynamique qui est tout à fait nouvelle et qui s'est accélérée depuis le début du XXIe siècle.
Et est-ce qu'il s'est accéléré depuis l'arrivée en particulier de Narendra Modi en 2014 ? Vous parliez de ces grands sommets africains. Je crois que le dernier en date, c'était 2015, donc c'était quelques mois après l'arrivée de Narendra Modi, mais c'était le troisième depuis le premier qui avait eu lieu, je crois, en 2008. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau vis-à-vis de la politique africaine de l'Inde avec l'arrivée de Modi ?
Il y a eu en effet une volonté de relancer la diplomatie indienne en général, et donc l'Afrique fait partie du paysage global de la diplomatie indienne, mais je ne dirais pas qu'il y a eu des initiatives plus fortes qu'avant, notamment parce que le gouvernement Modi a été après considérablement absorbé par des problèmes de politique intérieure indienne.
Quels sont les domaines, les secteurs en particulier où Delhi ambitionne de développer particulièrement sa collaboration avec les pays d'Afrique ? Est-ce qu'il y a vraiment des secteurs où on veut mettre l'accent en particulier ces dernières années ?
On voit bien que l'Afrique est un débouché pour l'économie indienne. On voit que les produits indiens sont très présents, notamment les véhicules. On voit aussi que l'industrie pharmaceutique indienne, qui s'est beaucoup développée depuis 20 ans, exporte beaucoup sur le continent africain. Malheureusement, il y a aussi le problème des faux médicaments qui viennent aussi d'Inde, avec les vrais. Et on voit aussi se développer beaucoup des relations dans le domaine de l'agriculture, c'est-à-dire que l'Inde est acheteuse de certains produits agricoles africains. Et puis, on voit également un secteur qui est très discret traditionnellement, mais où l'Inde est très très présente, qui est le secteur du diamant. puisque en fait 9 diamants sur 10 dans le monde sont des diamants de joaillerie sont polis taillés en Inde. Et on voit dans les zones de production de diamants en Afrique, on voit maintenant très souvent une présence de négociants indiens qui viennent à la source, en fait, qui viennent acheter sur les sites de production, dans les pays d'Afrique centrale notamment. On voit aussi la grande distribution indienne qui commence à percer sur le continent africain. Par exemple, au Congo, depuis 2000, on voit les commerces des supermarchés indiens concurrencer les Libanais qui étaient avant un peu en situation de monopole dans le domaine du commerce de gros. Maintenant, on voit des Indiens très implantés à Kinshasa et aussi à Lubumbashi. Ces réseaux d'affaires transcontinentaux bénéficient de ce dont vous parliez au début de l'émission, c'est-à-dire d'une présence de diaspora indienne installée parfois depuis très longtemps dans certains pays d'Afrique.
Automobile, industrie pharmaceutique, agriculture, les diamants, vous m'avez pas parlé d'hydrocarbures. Le pétrole, le gaz, ça intéresse l'Inde? On sait que, par exemple, la Russie a de nouvelles ambitions, de nouvelles velléités en la matière, qu'on a mené un certain nombre de nouveaux partenariats avec un certain nombre de pays. Qu'est-ce qu'il en est du côté de l'Inde? Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les Indiens, les hydrocarbures?
On ne les voit pas très présents dans les pays producteurs d'hydrocarbures en Afrique. Leur société nationale est rarement mentionnée, en fait, parce que je pense que l'essentiel de leur approvisionnement vient d'être beaucoup plus près d'eux, vient du Moyen-Orient, du Golfe, évidemment. Et donc, on ne voit pas les sociétés d'hydrocarbures indiennes très présentes sur les marchés africains.
Encore peut-être un tout petit mot avant d'évoquer la question des diasporas et la question de l'intégration justement de ces populations originaires d'Inde. Si on file encore un peu cette comparaison entre l'Inde et la Chine, j'entends ce que vous dites à propos de l'Inde où il y aurait essentiellement des initiatives privées alors que du côté de la Chine ça serait plus étatisé. J'entends également les secteurs dans lesquels l'Inde développe beaucoup son partenariat avec les pays africains. Mais j'ai entendu aussi dire, et je voudrais avoir votre opinion là-dessus, qu'il y aurait peut-être une autre différence entre l'Inde et la Chine, à savoir le fait que l'Inde mettrait aussi sur la table des questions peut-être plus liées aux droits humains, à la sécurité humaine, c'est-à-dire des questions afférentes à l'éducation, à l'accès à l'eau, aux soins de santé. Est-ce que vous confirmez cet état de fait et qu'est-ce que fait justement l'Inde dans ce domaine-là? Est-ce que ça lui donne une plus-value par rapport à la Chine?
Oui, en fait, mais ça aussi, ça fait partie de la gestion de l'héritage ancien. Lorsque le mouvement des non-alignés s'est formé, l'Inde a joué un peu le rôle de parrain, et notamment en termes d'aide au développement. Et donc, elle s'est investie en Afrique dans l'aide au développement, donc les secteurs où vous parliez, la santé notamment, l'éducation un peu, l'agriculture, etc. Et donc, ça se poursuit actuellement. Aussi, un certain nombre de ces actions de coopération ont pris une tournure privée, notamment dans le secteur de la santé, où maintenant vous avez en fait beaucoup d'Africains qui viennent se faire soigner en Inde, dans des structures de santé indiennes qui sont de bonne qualité et qui sont abordables financièrement pour eux. Et donc le gouvernement indien continue à jouer cette carte du pays émergent qui développer de grandes compétences dans beaucoup de secteurs et qui par conséquent peut les mettre à disposition des pays africains. Mais là aussi, les sommes, quand on compare les sommes mises sur la table par le gouvernement indien et le gouvernement chinois, ne sont pas comparables.
Thierry Vircoulon, vous êtes en ce moment en Afrique du Sud et vous travaillez précisément sur ces diasporas indiennes. Vous le disiez, il y a évidemment des Indiens qui sont arrivés depuis très longtemps et certains ont même la nationalité des pays dans lesquels ils habitent. Et c'est le cas du côté de l'Afrique du Sud. Mais pour d'autres, non seulement ils n'ont pas la nationalité, mais en plus ils sont arrivés beaucoup plus récemment. Comment se passe l'intégration de ces populations originaires d'Inde? Est-ce qu'elles sont bien acceptées? Est-ce qu'elles sont bien intégrées dans la société? Ou est-ce qu'il y a de vraies difficultés?
L'intégration est encore un processus assez difficile, même pour les Africains d'origine indienne, puisque en fait, les Indiens qui sont arrivés selon les vagues d'immigration du XXe siècle se sont retrouvés dans une position intermédiaire entre les colons européens et les populations africaines. Et donc, très vite, il y a eu un antagonisme entre les populations africaines et ces communautés indiennes qui ont été vues, du fait de leur position d'intermédiation sociale, qui ont été vues comme étant des exploiteurs. Et donc, on a eu en 1972 la grande expulsion des Indiens d'Ouganda, qui a été l'incarnation de ce rejet des Indiens ou des Africains d'origine indienne en Afrique de l'Est. Cette phase est passée, elle correspondait aussi un peu à la phase du nationalisme africain, évidemment, après la décolonisation. Cette phase est passée et les relations sont maintenant beaucoup plus apaisées. Mais il y a toujours au niveau des populations des clichés, des stéréotypes négatifs à l'égard des Indiens exploiteurs. J'ai vu ça aussi au Kenya très fortement, où en 2017, pour lutter contre cette animosité populaire, la communauté indienne au Kenya, qui est à peu près autour de 100 000 personnes, a fait une pétition pour être reconnue officiellement par les autorités comme une des composantes de la nation kenyane, et donc qu'on les intègre plus, si je puis dire, à la nation kenyane.
Et ça a donné quoi pour le Kenya?
Le gouvernement n'a pas pris de décision officielle encore, il y a 2 ans, je crois que cette question est toujours en suspens. En Afrique du Sud aussi, il y a eu plusieurs, il y a une communauté indienne qui s'est créée dès la fin du 19e siècle. Il y a toujours aussi dans les discours populaires africains des stéréotypes et des clichés qui accusent les Indiens d'être des employeurs abusifs. Et il y a régulièrement des polémiques qui surgissent dans les médias sud-africains parce que un chanteur aura tenu des propos racistes. Et donc c'est quelque chose qui est assez récurrent, même si cette communauté est installée depuis maintenant plus d'un siècle en Afrique du Sud. Et que les autorités sud-africaines n'envisagent plus, comme elles l'avaient fait à une époque au XXe siècle, l'idée de les renvoyer en Inde. Et ce sont des citoyens sud-africains et personne ne contestera leur présence en Afrique du Sud, où ils sont 1,5 million, ce qui est la moitié de la diaspora indienne en Afrique, on estime à 3 millions de personnes.
Esa china de mi cuba cámara, que siempre le tengo, que siempre le tengo.
Merci beaucoup Thierry Vircoulon d'avoir été avec nous en direct de l'Afrique du Sud. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Et un grand merci à nos deux invités ici en plateau, Thierry Perrault, je rappellerai vous concernant, vous avez participé à un ouvrage collectif intitulé « Une mondialisation contrariée, l'Europe et la Chine face à de nouveaux enjeux », c'était chez l'Harmattan l'année dernière. Un grand merci à vous Emmanuel Véron d'avoir été avec nous, je rappellerai vous concernant un ouvrage, mais à paraître, ça sera dans quelques mois, donc vous reviendrez pour nous en parler, ce sera sur les nouvelles routes de la soie,
sur la nouvelle route de la soie.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Voilà, c'est avec ce titre Esta China du groupe Étoile de Dakar que l'on ferme cette série consacrée à l'Afrique que vous pouvez évidemment retrouver sur le site de France Culture. 11h52, presque 53 minutes, c'est l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Un Brice Couturier aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, par téléphone. Bonjour Brice.
Bonjour Florian, désolé.
Il n'y a pas de problème. Hier, Brice, vous nous avez parlé d'un écrivain libanais exilé au Canada, Rawi Haj. Et ce matin, vous nous présentez un jeune écrivain syrien exilé, lui, en France, Omar Youssef Souleyman.
Oui, il vient de publier chez Flammarion le grand roman de la révolution syrienne avortée. Son titre, Le dernier Syrien. Dans son journal récemment paru, le grand romancier hongrois Sándor Márai écrit « Que l'on confie donc l'histoire aux écrivains ?» Ils dépeindront toute une époque avec force anecdote et panache de surcroît. Il existe bien sûr plusieurs livres très intéressants consacrés aux printemps arabes et quelques-uns au soulèvement du peuple syrien et à la guerre civile qui s'en est suivie en particulier. Mais le roman d'Omar Youssef Souleyman est précieux parce qu'il synthétise une expérience vécue sur place, qu'il restitue la vie quotidienne en Syrie dans les années 10. On a l'impression de respirer l'air de Homs ou de Damas, de courir au milieu des simples gens humiliés aux checkpoints par les militaires du régime, visés et tués au hasard par ces snipers cachés sur les toits. À travers de courtes scènes, des dialogues, des échanges de mails, nous suivons les espoirs et les échecs d'un petit groupe de jeunes révolutionnaires persuadés de pouvoir renverser la tyrannie subie par leurs parents et des grands-parents, celle du pouvoir des Al-Assad et de leurs sbires. Eux-mêmes, je cite, « à l'école chaque jour, ils ont scandé « Notre président pour l'éternité, le fidèle Hafez Al-Assad ».» adolescents, ils ont appris par cœur ces discours. Devenus adultes, ils s'efforcent désormais de déconstruire cette propagande avec laquelle ils ont grandi. Initialement convaincus de pouvoir renverser une dictature haïe sans violence, à travers des manifestations de masse régulières et pacifiques, et en témoignant sur les réseaux sociaux, on les voit progressivement débordés par les barbus. Ce roman montre en effet magistralement comment le régime a cyniquement libéré de prison les islamistes les plus dangereux, afin qu'ils se mêlent aux manifestants dans le but de discréditer leur soulèvement. Les démocrates révolutionnaires, tout en se méfiant d'eux, ont dû les ménager. Ils cherchaient à s'attirer les bonnes grâces des monarchies du Golfe, voir leur mouvement relayé par les réseaux de télévision qu'elles contrôlent. Mais progressivement, ces islamistes vont introduire des armes et, en prenant le contrôle du mouvement, le lancer dans une impasse. Tandis que les démocrates libéraux vont se retrouver, comme dit un personnage, coincés entre le régime et les islamistes. D'un côté, des renforts militaires arrivent sans cesse, de l'autre, les groupes islamistes armés se filment brandissant des kalachnikovs et diffusent des vidéos sur YouTube. Et cette belle jeunesse, avide de liberté, va se retrouver soumise aux lois sinistres de la charia. Il leur est interdit de chanter car, je cite, « Allah n'aime pas ceux qui se réjouissent ». Les jouets promis aux enfants pour Noël seront brûlés par les islamistes. Ils refusent le caractère multiconfessionnel et laïque de la révolution. Le dernier Syrien aborde avec franchise le thème de l'homosexualité puisque ce roman est dominé par les silhouettes de deux garçons qui s'aiment, Youssef et Mohamed, un étudiant et un petit commerçant qui s'envoient des mails dans lesquels ils décrivent la difficulté de leur vie quotidienne, les développements du mouvement, mais aussi les persécutions qu'ils subissent en tant qu'homosexuels dans une société hypocrite. Une société qui réprime la sexualité sous toutes ses formes, mais qui bannit avec une violence extrême l'homosexualité, sous prétexte qu'elle est proscrite par le Coran. Souleyman met en cause le rôle de la répression sexuelle dans la violence politique qui déchire cette région du monde. Je le cite. « Je crois que si on était libre sexuellement, si chaque homme et chaque femme pouvaient vivre ses passions, la guerre prendrait fin. Plus personne n'aurait envie de tuer qui que ce soit. Noyé dans le désir, la violence deviendrait une idée vide. » On a aussi, dans « Le dernier Syrien », le point de vue des partisans du régime. Les uns ont peur de la démocratie et du suffrage universel parce qu'ils appartiennent à la minorité, à la oui, dont fait partie la famille Al-Assad. Les militaires qui torturent le jeune dirigeant révolutionnaire lui servent, eux, la fable politique selon laquelle Al-Assad défend la Syrie contre un complot américano-sioniste destiné à démanteler le pays. Je cite, « Nos ennemis sont à l'affût, ils veulent profiter du chaos pour nous envahir et vous les soutenez en créant ce bordel que vous appelez la révolution. » À la fin du livre, Khalil, le chef idéaliste, torturé à mort, agonise dans sa geôle en rêvant de sa Joséphine. Youssef, lui, part en exil en emportant dans les talons de sa chaussure une carte mémoire qui contient tout ce qu'il a filmé de la résistance. Conclusion, trois citations du livre. Tout ce que nous voulions, c'était vivre comme des êtres humains, mais nous avons réclamé la liberté à un pays qui n'était pas prêt. Et encore, la plus belle jeunesse de Syrie est morte, et ce, sans aucun résultat. Enfin, dernière citation, le bateau coule et vous êtes des oiseaux, allez construire votre nid au loin. Omar Youssef Souleyman est parti, lisez son livre.
Merci beaucoup Brice Couturier. Donc Le dernier Syrien de Omar Youssef Souleyman qui vient de paraître chez Flammarion. Un grand merci à vous. On vous retrouve lundi. Demain, on peut vous lire bien sûr, Brice Couturier, sur le site de France Culture.